Alors bonsoir à tous, c'est une vraie joie pour moi de revenir dans le cadre de la neuvaine vers l'Immaculée Conception pour continuer à contempler ce mystère. Je ne sais pas si il y en avait parmi vous qui ont vécu la neuvaine l'année dernière. Et donc l'année dernière, on a abordé ce mystère de l'homme et on a essayé de découvrir comment il s'éclairait à la lumière de la parole de Dieu. Et pour approfondir ce chemin, il m'a semblé intéressant d'aborder la vie sacramentelle, ce dont nous vivons chaque jour, d'une manière ou d'une autre, je m'expliquerai. En fait, réfléchir sur la vie sacramentelle nous amène à nous questionner un peu sur la manière dont nous participons à l'Eucharistie. Est-ce qu'on assiste à la messe ? Ou est-ce qu'on célèbre l'Eucharistie ? Vous voyez que déjà dans les verbes, c'est deux démarches différentes. Quand je vais me confesser, quand je reçois le sacrement de réconciliation, comment est-ce que je m'engage dans ce sacrement ? Dieu vient à nous, mais il vient à nous pour qu'on puisse l'accueillir. Ça, c'est l'événement de l'incarnation vers lequel on avance à travers ce temps d'avant. Et donc, je vais essayer de réfléchir avec vous, à la lumière de chaque sacrement, comment est-ce que, humainement, on s'engage par rapport à cette grâce que Dieu nous fait. Alors, il me semble que hier, le Père Antoine vous a initié à travers deux sacrements magnifiques, le sacrement des malades et puis le sacrement de la réconciliation. Comment est-ce qu'on participe au salut de Dieu qui vient à nous ? Comment on se laisse guérir spirituellement, psychologiquement, corporellement. Le sacrement des malades vient nous consoler et déjà une promesse de la résurrection. Alors aujourd'hui, je vous propose plutôt d'aborder une réalité qui est un peu hors cadre. Moi j'aime bien commencer par le hors cadre. Vous savez, il y a les sept sacrements et puis, comme je vous l'ai dit, il y a la manière dont on s'engage. Et cette manière dont on s'engage nous situe par rapport à notre corps. Et comme vous l'avez vu dans le programme, c'est la réalité que je voudrais aborder avec vous. Jean-Paul II parle du corps comme étant le sacrement de la personne. Alors on va essayer de voir ce que cela veut dire. Chacun de nous, on a un corps. Jusque-là, vous me suivez. Jusque-là, vous pouvez être d'accord. Vous êtes bien assis, là, sur une chaise. Vous êtes présent dans cette basilique. Et vous vous y êtes présent, j'espère, spirituellement, psychologiquement. Mais inévitablement, vous y êtes présent aussi corporellement. Alors, quand Jean-Paul II parle du corps comme d'un sacrement, en fait, le cadre dans lequel il en parle, ce sont ses catéchèses. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, cette catéchèse de la théologie du corps. Alors en fait, la démarche en soi paraît peut-être très compliquée, mais elle est très simple. Ce que Jean-Paul II dit, c'est que notre corps a un langage. On s'exprime à travers notre corps. Quand on est malade, notre corps s'exprime et exprime quelque chose. Quand on loue le Seigneur, quand on rend grâce au Seigneur, on a plutôt une attitude qui consiste à se relever, à s'élever vers lui, puisqu'on est dans une attitude d'action de grâce. Donc notre corps, quand on en prend conscience, il a un langage. À travers mon corps, je peux faire le bien, comme malheureusement, je peux aussi faire le mal en fait. Donc je m'exprime à travers mon corps. Quand Jean-Paul II dit que le corps a un langage et que ce langage est théologique, il nous dit quelque chose de très profond, qu'on expérimente tous. On peut aimer à travers notre corps. Quand on pose des gestes de charité, on peut aimer son époux lorsqu'on est marié, on peut aimer l'autre en lui apportant des gestes de soins, d'attention, etc. Ce que l'on constate chacun, c'est que notre amour humain est limité. On a besoin d'être relié d'un point de vue de cet amour humain. Alors, il est limité, pourquoi ? Parce que nous portons en nous les traces du péché originel. On en avait parlé l'année dernière, le péché originel qui a fait qu'on a pris distance avec Dieu et il y a comme un abîme qui est venu s'inscrire entre notre âme spirituelle et notre corps. Saint Paul exprime très bien cela quand il dit « Ce que je veux, j'arrive pas à le faire, et ce que je veux pas, ça, je le fais très bien. » On a du mal à se coordonner. Et donc, dans notre manière d'aimer, on est parfois vraiment, par rapport à cette difficulté, on a le désir d'aimer, mais on n'y arrive pas, à cause de nos propres limites, parfois à cause des limites d'autrui. La théologie du corps, le fait que le corps ait un langage qui soit celui de Dieu, consiste, à travers notre amour limité, à passer le relais à l'amour de Dieu. Je peux, à travers mon corps, laisser Dieu m'aimer et laisser Dieu aimer à travers moi. Je peux poser des actes de charité. Ce qui caractérise la charité, vous savez, c'est une vertu théologale, c'est qu'elle s'enracine en Dieu, et donc elle est une participation à l'amour de Dieu. Là où je sens que mon amour est limité, je participe à un amour plus grand qui vient agrandir mon espace propre de l'amour pour aimer davantage. Donc, à travers cela, vous voyez que notre corps peut participer réellement à l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que Jean-Paul II dit lorsqu'il parle du corps comme le sacrement de la personne. Lorsque je m'enracine dans la vie de Dieu, lorsque je m'enracine dans son amour, eh bien, c'est pour l'exprimer, c'est pas simplement pour le garder à l'intérieur de moi, c'est pour le communiquer. Voilà, ça c'est la question principale que je voulais aborder avec vous, mais on va l'aborder progressivement. Si l'on revient simplement à ce qu'est le corps, qu'est-ce que le corps exprime ? Lorsque je vous vois assis là, je vois des corps bien différents, forcément parce que vous avez chacun un code génétique. Vous n'avez pas choisi d'avoir tel nez, d'avoir telle morphologie, d'avoir telle taille, d'avoir... Bref, voilà, on est déterminé, notre corps il est déterminé par un code génétique. L'union des gamètes, à travers l'union conjugale, a fait que nous avons un code génétique et ce code génétique s'exprime inévitablement par notre corps. Donc notre corps exprime ce corps génétique. Mais il n'exprime pas que ce corps génétique. Qu'est-ce qu'il exprime encore ? Fondamentalement, il exprime toute notre histoire. La façon dont nous avons été portés dans le sein de notre mère. La façon dont nous avons été attendus. La façon dont nous avons été accueillis. La façon dont nous avons été bercés. La façon dont nous avons été éduqués. Le fait d'être né, moi je suis née à Bruxelles, il y en a peut-être qui sont nés à Paris, à Versailles, bref, le lieu de notre naissance vient nous marquer en fait. Donc nous sommes profondément marqués par notre histoire, par les gestes qui ont été posés vis-à-vis de nous, aussi de façon très simple, si vous avez eu un accident, vous avez peut-être une cicatrice, donc votre corps exprime l'accident que vous avez eu, vous le portez encore, vous portez cette cicatrice encore. Donc le corps exprime fondamentalement tout ce que l'on a vécu. Il s'exprime différemment selon les différents âges de la vie. On voit comment un petit enfant aime se confronter à l'espace, se confronter aux limites de l'espace, donc son corps se mobilise. On voit comment un adolescent essaie d'apprivoiser la croissance de son corps. On voit comment un jeune adulte commence à se poser par rapport à son corps à travers des engagements bien précis. Et puis, avançant à travers le temps, on voit de plus en plus comment le temps vient marquer notre corps. L'expression des rides, l'expression des cheveux blancs, inévitablement, le temps vient marquer notre corps. Alors, je trouve que les rides ont quelque chose de très beau au niveau de leur expression. C'est pas toujours ce qu'on voit immédiatement. Hein. Surtout nous, les femmes, on est un peu frileux par rapport à ce vieillissement, parce qu'il nous rappelle effectivement qu'on a une horloge biologique. Hein, et donc, on essaye d'apprivoiser comme on peut ce vieillissement. Mais qu'est-ce que les rides peuvent exprimer à travers, vous savez, c'est un écartèlement. Hein. Vous voyez bien, les rides, c'est un écartèlement du corps. Jean-Paul II, dans une de ses catéchèses, pas celle de la théologie du corps, mais plutôt quand il parle des personnes plus âgées, il dit, en fait, les rides expriment l'écartèlement de notre corps parce que notre corps est trop étroit pour accueillir la vie de Dieu. Il y a un moment donné où la vie de Dieu est appelée à être accueillie, c'est sûr, mais notre corps, il est trop petit. Donc, il s'écartèle jusqu'à mourir. Vous connaissez cette phrase de Thérèse de Lisieux, hein, qui vient nous visiter régulièrement, hein, et qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Hein. » Notre corps est marqué inévitablement par des limites, en même temps qu'il est traversé par des forces. Hein. Et tout cela, on est appelé à l'apprivoiser à la lumière de Dieu. Ce qu'il y a de très beau, grâce à l'événement de l'incarnation, vous savez, Dieu s'est fait chair. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas une dimension corporelle qui ne concerne pas Dieu. Et donc tout ce qui nous traverse en termes de désir, de passion, de fantasme, etc., on a la liberté dans notre relation à Dieu de le tourner vers Dieu. Je prends conscience des forces vives, je prends aussi conscience de mes limites, de l'épreuve, du vieillissement, parfois du handicap, de la maladie, d'accord ? Je prends conscience de tout cela, mais plus profondément que la conscience de ce que j'éprouve, il y a cette conscience profonde de ma relation à Dieu. Je peux intégrer tout cela dans ma relation à Dieu. Alors, vous vous rappelez, parce qu'on avait vu ça l'année dernière, dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme est façonné. Hein, il est façonné à partir de la terre, à partir de la glaise. C'est Dieu qui le façonne. Alors, je viens de vous dire qu'on était façonné par notre code génétique, certes. On est façonné par notre histoire, par ce que nous avons vécu. Hein, notre corps est marqué par ce que nous avons vécu. Je ne sais pas si vous comprenez, si je vous dis que là, la façon dont vous vous tenez, hein, la façon dont vous vous exprimez, là maintenant, en fait, c'est la synthèse de toute votre histoire. Vous portez avec vous, que vous en soyez conscient ou non, toute votre histoire, et voire même l'histoire des générations qui vous précèdent. Puisque rien que le code génétique est l'expression de cette histoire qui vous précède. Donc nous sommes modelés par l'histoire, nous sommes modelés par nos relations, inévitablement. Des gestes qui nous ont fait du bien, un regard bienveillant, un geste de tendresse, voilà, permet à notre corps de se relever, de se laisser consoler. Des actes mauvais, en général, quand on les subit, eh bien, on en souffre aussi à travers notre corps. Donc, il y a nombre de réalités qui nous façonnent, mais la dimension qui nous façonne le plus, et ça c'est très très important, c'est notre relation à Dieu. C'est Dieu qui nous façonne le plus en profondeur. Nous sommes façonnés par notre histoire, nous sommes façonnés par les relations, et c'est un façonnement plus ou moins bon, parce que on n'est pas au royaume des cieux, l'histoire est marquée par le mal, par le péché, par la souffrance, par la douleur, par la mort. Elle est aussi marquée par l'amour, par la charité, comme je l'ai dit, par la foi, par l'espérance, par tout ce qui nous relie à cette vie que Dieu veut nous donner. Donc, ça c'est vraiment important. Hein. Donc, au-delà et plus profondément que les limites liées à notre histoire, liées à nos relations, il y a ce Dieu qui nous donne la vie. Je vais vous donner quelques exemples parce que ça peut parfois paraître abstrait. Ça, c'est le défaut des théologiens, c'est parfois d'être dans leur monde avec leurs concepts propres. Alors, il est bon de prendre des exemples concrets. Moi, je me rappelle quand j'étais en voyage en Inde pour aller servir à Calcutta auprès des sœurs de Mère Teresa. J'avais pris un temps d'adoration. Et en sortant de l'adoration, il y a une petite sœur qui me frappe l'épaule. Et je me retourne. Et c'était Mère Teresa. Alors, je parle d'elle parce que vous avez tous, je crois, au moins l'image de cette petite sœur qui aujourd'hui est sainte. Et quand on voit son image, qu'est-ce qu'on voit d'elle au niveau corporel? Elle était toute recroquevillée, plein de rides. Et elle était très marquée par l'arthrose. Et donc, son corps était très déformé. Hein? En fait, elle a été certainement, inévitablement, modelée par la misère qu'elle a côtoyée autour d'elle. Et quand elle m'a frappé l'épaule et que je me suis retournée, elle m'a dit quelque chose. Alors, je vais vous décevoir parce qu'en fait, j'ai été tellement distraite par la lumière qu'elle dégageait d'elle qu'en fait, j'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit. Mais je crois que j'ai reçu la parole que je devais recevoir. C'est que plus profondément que l'épreuve du temps, que l'épreuve de la misère, parce que nos corps, inévitablement, sont marqués par la misère, on va mourir, plus profondément que cela, notre relation à Dieu peut s'exprimer à travers notre corps. C'était vraisemblablement le moment où, vous savez, elle a traversé une épreuve où elle dit « J'étais dans la nuit, je ne voyais plus Dieu ». Elle ne voyait plus Dieu, mais apparemment, Dieu continuait à s'exprimer à travers elle. Donc même sa visibilité de Dieu dans la prière, peut-être que psychologiquement elle n'avait plus accès à Dieu, et pourtant sa vie spirituelle, les heures de prière qu'elle a passées, le temps d'adoration s'est exprimé à travers son corps. Et fondamentalement, c'est peut-être cela qui fait que l'Église est un corps. Vous savez, on parle de l'Église comme d'un corps. Nous sommes appelés en fait à communiquer ce langage de la vie et de l'amour de Dieu, et c'est cette communication du langage de la vie de Dieu et de l'amour de Dieu qui fait que nous sommes profondément reliés. Quand je vois les visages, je vois des visages extrêmement différents. On voit comment dans le monde, habituellement, qu'est-ce qui nous relie? Parfois, le lieu de notre naissance, on a souvent des amis qui nous ressemblent, on fait des études, et donc dans le cadre des études, il y a un engagement qui fait qu'on se rassemble, on côtoie des personnes dans le cadre du métier, donc ça c'est des réalités qui nous rassemblent. Mais qu'est-ce qui nous rassemble le plus en profondeur, à travers toutes nos différences? Et ça c'est le miracle de la paroisse, c'est le miracle de la vie de l'Église. Qu'est-ce qui nous rassemble le plus? C'est Dieu qui nous aime et nous donne la vie ici et maintenant. Et la question qu'on pourrait se poser à travers cette belle approche de Jean-Paul II, le corps comme sacrement, c'est: est-ce que je relais autour de moi, à travers la vie fraternelle, cet amour et cette vie que Dieu me donne? Alors là, et je le comprends très bien, vous allez me dire: oui, mais vous me parlez de l'amour, vous parlez de la vie de Dieu, mais c'est pas si simple que ça. Alors évidemment que c'est pas si simple que ça. Et on va voir que, en fait, c'est là où les sacrements, demain on va parler de l'Eucharistie, viennent nous aider. Et comment est-ce que le sacrement de l'Eucharistie vient nous aider? Quand on participe à la messe, comment est-ce qu'on recueille, dès l'entrée dans l'Église, dès le signe de croix, comment est-ce qu'on participe à cette grâce de l'Eucharistie? Comment est-ce que je la reçois pour la communiquer? Donc, évidemment qu'il y a la communion, évidemment qu'il y a l'offrande, le sacrifice et le mémorial. Alors, c'est tellement grand qu'en fait, on est très timide et on ne sait pas très bien comment se situer par rapport à ça. Alors, on fait comme d'habitude, on fait comme on a appris plus ou moins dans le cadre du catéchisme qu'on a reçu. Mais plus profondément, qu'est-ce que vous engagez quand vous participez à l'Eucharistie? Donc ça, c'est un point qu'on va aborder demain. Il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup éclairée. Alors, elle est très dense parce que le théologien qui l'a prononcée a une pensée extrêmement dense, mais je trouve que la phrase est très belle. Voilà ce qu'il dit. Il dit, donc, il s'agit d'un théologien qui s'appelle Albert Chapelle, c'est un jésuite belge, et il dit « Le corps est une promesse qui a besoin de l'éternité pour s'accomplir. » On n'accomplit pas notre vie corporelle uniquement à partir de nous-mêmes, à partir de notre histoire, à partir de nos relations. Toutes les histoires, toutes les relations, tout ce qu'on vit est traversé par des grâces, mais aussi par des blessures. Et donc, il nous faut, même si on a reçu des grâces, toujours puiser plus profondément pour accomplir la promesse. Alors, pourquoi est-ce que notre corps est une promesse? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais il est quand même incroyable de se dire que on peut toucher, on peut voir, on peut entendre, on peut goûter. En fait, le Seigneur nous a donné un corps pour qu'on puisse communier aux réalités qui nous entourent. Quand on est invité quelque part, qu'on partage un repas, que ce repas est très bon et qu'on partage ensemble quelque chose qui est très bon, on voit comment, à travers notre corps, on peut communier à quelque chose autour de ce repas. Est-ce qu'on se rend assez compte de la grâce que l'on a quand on a un corps? Alors évidemment, et certains d'entre vous en font déjà peut-être l'expérience, lorsqu'on vieillit, on entend moins bien, on voit moins bien. Alors moi, c'est bien avant. On voit moins bien parfois, voilà. Les yeux ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Le toucher n'est pas toujours évident, parfois le goût, voilà. Et ça pose question parce que voilà, ce corps est en train de, voilà, est en train de vieillir, comme on dit. Parfois, il est traversé par la maladie, hein, comme je l'ai dit. Et comment, à travers chacune de ces épreuves, moi c'est une vraie question, comment est-ce que l'épreuve me donne de communier plus profondément? Je ne vois pas ou je vois moins bien. Comment est-ce que cet obstacle peut être le lieu d'un accès, peut-être, à une vision plus profonde? Je vois moins bien de l'extérieur. En fait, quand le champ extérieur se rétrécit, on est amené à puiser en profondeur. Et finalement, la vie est bien faite de ce point de vue-là, parce que c'est en profondeur qu'on pourra dire au terme de notre vie, me voici. Me voici à travers le fait de ne plus entendre, de ne plus voir, de ne plus pouvoir toucher, de ne plus pouvoir goûter, mais dans l'espérance de pouvoir pleinement toucher, pleinement goûter, pleinement voir, etc. Pleinement sentir. L'odorat est une réalité qui est bonne. Donc, notre corps est appelé à s'accomplir grâce à la vie éternelle. La différence entre la vie terrestre et la vie du ressuscité, c'est que tous ces sens s'épanouiront en plénitude. Et on pourra partager une plénitude de vie avec ceux qui nous entourent. Ça, c'est la communion des saints. Alors, ce que j'ai envie aussi de vous dire, et ce qui me paraît très important, c'est que le corps, à travers tout ce qu'il signifie, non seulement est un cadeau incroyable qui nous est fait, c'est un don immense, mais il comporte un immense secret, parce que il y a l'histoire dont on a conscience, et puis il y a une part de cette histoire qu'on ne réalise jamais assez, la présence de Dieu dans nos vies par exemple, et pourtant notre corps est marqué par cela. Notre corps comporte un énorme secret et il demande à être profondément respecté. En fait, quand je me présente, quand je vis une relation d'amitié, quand je suis fiancée et que j'ai une relation amoureuse, je m'engage avec mon corps. Mais quand je m'engage avec mon corps, ça veut dire que ce n'est pas simplement une partie de moi-même qui s'engage. C'est vraiment l'engagement de toute ma personne à travers mon corps. Donc on aura l'occasion aussi d'aborder de ce point de vue-là, ce que veut dire le sacrement du mariage. Comment est-ce que ce sacrement me permet de vivre ceci et mon corps, ceci et mon corps, en aimant, pas seulement à travers mon amour seulement, mais à travers ou grâce à l'amour de Dieu. C'est ça le sacrement du mariage, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, mon corps comporte beaucoup plus que ce que je peux comprendre, que ce que je peux voir, et donc il est sans cesse amené à se laisser éclairer par cette lumière plus profonde. Alors, il y a dans la foi chrétienne ces gestes dont on parle peut-être pas assez, qu'on appelle les gestes de piété populaire. Quand vous venez ici à la basilique Notre-Dame de Victoire, vous pouvez venir prier auprès de la Vierge, auprès de Notre-Dame des Victoires, et vous allez poser des gestes, vous allez allumer une bougie, etc. Ça nous dit à quel point tout notre être est appelé à être prière. Tout notre être est appelé à vivre la relation à Dieu. Quand on va à Ars et qu'on va visiter le lieu où le curé d'Ars a confessé, en fait, on aime bien toucher. Alors, le toucher, ce n'est pas quelque chose de magique. En fait, il s'agit, quand on touche, de se dire, mais je touche là, je touche le mystère de la miséricorde de Dieu. Le mystère de la miséricorde de Dieu est venu comme marquer ce confessionnal. Et donc, quand je le touche, eh bien, mon corps touche quelque chose de ce mystère. Quand on va à Lourdes, je ne sais pas si vous êtes à Lourdes, vous avez souvent beaucoup de personnes qui attendent pour toucher la grotte. On peut se dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est magique? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se toucher de la grotte? Bien, tout cela a du sens parce que la Sainte Vierge est apparue à Lourdes. L'Immaculée Conception, vers lequel on avance, ce mystère de l'Immaculée Conception a touché cet espace-là, a rejoint cet espace-là. Et donc, quand on touche la grotte de Lourdes, eh bien, on dit quelque chose de notre pauvre humanité qui a besoin d'être rejoint par la grâce du salut. La piété populaire, il ne faut pas en avoir peur, il y a quelque chose de magnifique, de beau, hein, qui nous dit à quel point il y a un désir qui nous habite et qui consiste à participer au mystère de Dieu. Alors j'ai brièvement évoqué le « ceci est mon corps ». Alors vous allez me dire, oui mais non, attendez, ça c'est une parole réservée aux prêtres. Pas que. Quand est-ce que la Vierge Marie a dit « ceci est mon corps » ? Eh bien, au moment de l'incarnation. Au moment de l'incarnation, elle a donné chair à Jésus. Elle a dit « ceci est mon corps ». Et ça nous dit quelque chose de très profond sur notre vocation de baptiser. Comment est-ce que on dit à Dieu, comment est-ce qu'on dit chacun à Dieu « ceci est mon corps » ? Comment on lui laisse prendre le relais à travers notre pauvreté, nos limites, nos passions, nos épreuves, nos maladresses? Comment est-ce qu'on laisse Dieu prendre le relais? Donc Dieu est appelé à s'exprimer à travers notre corps. On verra comment l'Eucharistie, comment le sacerdoce signifie ce que chaque membre du peuple de Dieu est appelé à vivre. Au fond, toute notre vie, c'est de dire ceci mon corps. Moi, quand j'ai été consacrée il y a quelques années dans cette basilique, j'ai trouvé assez incroyable de remonter, de monter vers l'autel et à un moment donné de dire « me voici Seigneur ». Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « me voici Seigneur » ? Je ne le dis pas uniquement intérieurement, spirituellement. Non, je suis là et je suis là pour me présenter à Dieu. Et au fond, notre vie quotidienne est appelée à pouvoir exprimer ce « me voici », ce « ceci est mon corps ». Hein ? Comment est-ce que je l'exprime dans le cadre de mes relations ? Comment est-ce que je l'exprime dans le cadre de mon histoire très concrète ? Lorsque je fais la vaisselle, lorsque je vais faire des courses, lorsque je vais à la banque, est-ce qu'il n'y a pas une manière profondément chrétienne de communiquer quelque chose de la vie de Dieu qui est source de joie et de lumière pour nous ? Voilà, alors on continuera à méditer là-dessus et donc demain on abordera l'Eucharistie de Jésus, voir quel est le lien entre ce que je vous ai dit, notre vie quotidienne et ce que Jésus dit, ce que le prêtre dit au nom de Jésus, ceci est mon corps. Merci de votre attention.